Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, où nous exploitons littéralement le potentiel d'être à plusieurs pour mieux s'émanciper, pour mieux s'épanouir, pour mieux performer, pour découvrir notre potentiel collectif et surtout mieux prospérer. Devenir prospère, c'est devenir riche sur le long terme, c'est faire s'émanciper aussi notre richesse. Et la richesse, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en fonction de vos propres, de votre propre définition de la réussite quelque part. Parce que oui, c'est bien ça, l'ambition derrière, c'est d'être en mesure de mieux réussir. Et le potentiel collectif que nous avons dépasse de très très loin notre potentiel individuel. En revanche, ce n'est pas toujours évident que de se tourner vers les autres quand on a déjà du mal à se tourner vers soi. Et la fin de la saison 6 promeut le passage à l'action, quoi qu'il en coûte, puisque de toute façon, toutes les bonnes idées du monde n'ont vocation qu'à mourir si elles ne sont pas mises en œuvre, déployées, partagées, relayées, et surtout si elles ne vivent pas dans le monde réel. En sachant que ce fameux monde réel, après tout, il n'est qu'une question de perception. C'est en fonction de nous et de notre manière de traiter l'information des uns aux autres que nous sommes capables de créer notre propre réalité, donc de digérer l'information et d'en faire de la connaissance. Et cette connaissance, eh bien, elle ne vaut pas le même poids pour chacun. Elle n'est pas pareille dans la balance chez tout le monde. Elle n'est pas située au même endroit. Elle ne fait pas appel aux mêmes ressources. Quoi qu'il en soit, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire, ces connaissances sont inutiles si vous ne vous en servez pas dans la vie de tous les jours. Si vous ne transformez pas tout votre savoir, toute votre intelligence, que ce soit émotionnelle, intellectuelle, situationnelle, expérientielle, sociale, j'en passe et des meilleurs, dans votre quotidien pour vous servir à développer, pour développer ce fameux modèle de réussite. Parce que on peut savoir, mais si on ne sait pas faire, c'est inutile. Ça ne sert pas à grand-chose, mis à part à avoir, pourquoi pas, des discussions intéressantes. Et quand bien même, ce serait des discussions intéressantes que ça pourrait être une compétence que vous êtes en train de développer. Savoir parler des choses, c'est aussi un atout majeur. La communication passe beaucoup par la parole, pas que par ce qu'on dit, aussi par ce qu'on ne dit pas. Mais quand on le dit, eh bien, dans la manière dont on le partage, en fonction du niveau de connaissance que nous avons, eh bien, on peut s'attirer aussi à nous tout un tas de talents, de potentiels et de gens intéressants qui ont aussi des choses à partager. Et c'est d'ailleurs le principe de TED, par exemple, pour les conférences que vous connaissez probablement, dont la mission, dont la vision globale est « Ideas worth spreading », des idées à partager, et des idées qui valent la peine d'être partagées. Donc, il y a tout un tas de situations dans lesquelles on peut se retrouver pour partager nos idées. Il y a tout un tas de situations dans lesquelles on peut se retrouver pour mettre en œuvre nos connaissances, pour en faire des compétences, pour avancer dans la vie, pour multiplier son salaire par 2, par 3, par 4, par 5, par 10. Oui, c'est possible. Oui, c'est pas que du blabla sur Internet. Oui, c'est pas que des vidéos où il y a des tocards qui essayent de vous extorquer votre argent. Oui, c'est une ambition qui est réalisable. Oui, ça demande aussi du travail. Oui, ça demande de l'investissement. Après, il y a toutes sortes de résultats possibles. Il y a toutes sortes d'efforts possibles. On peut imaginer quelqu'un qui arrive en 2 ans à multiplier son salaire par 10 et quelqu'un qui arrivera en 10 ans. Eh bien, dans chaque situation, à chaque modèle mental, ses correspondances pratiques, puisque en fonction de la manière dont nous percevons notre vie et dont nous nous employons nous-mêmes à accomplir nos rêves quelque part, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une notion de salaire, mais c'est très pragmatique, au moins, c'est quelque chose de tangible qui nous concerne tous pour vivre et pour acheter une maison, pour acheter des maisons, pour acheter une voiture, pour acheter des voitures, pour mettre nos enfants à l'école. Alors, je n'ai pas d'enfants, mais c'est un exemple. Et ainsi de suite, que ce soit pour faire votre garde-robe ou acheter une belle montre. Alors si vous êtes matérialiste, forcément, ça peut être un super atout que d'avoir plus d'argent que nécessaire pour vous acheter encore plus d'objets. Mais même si vous êtes minimaliste, n'oublions pas que ce qui fait la valeur d'un appartement, ce n'est pas tant le fait que ce soit 4 murs. Non, c'est l'espace qu'il y a aussi à l'intérieur. Et c'est une autre mode possible que de pouvoir avoir de grands espaces qui soient aussi très vides et qui fasse ce côté très plein. Alors, bon, on va pas rentrer dans des conceptions métaphysiques liées à de la psychologie de haut niveau. Néanmoins, à chacun de s'employer en fonction de ses propres caractéristiques, de ses propres croyances, de ses propres opinions, et surtout de les faire évoluer. De les faire évoluer en fonction des situations, en fonction de ses expériences, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs petit à petit dans sa vie. Parce que c'est bien là aussi la difficulté quand on avance, et les doigts dans le miel est une boucle itérative, c'est-à-dire on progresse aussi par l'expérience d'une saison à une autre, dans le sens où la saison 1 amène à la saison 2. La saison 2 peut, alors c'est la bestialité et la colère, la saison 1, la saison 2, la saison 2 peut amener un retour en arrière, refaire face à ses contradictions et retomber dans l'échec, ou bien peut permettre d'avancer vers la saison 3, à la fin, développer une raison d'être pour progresser. Et puis, à ce moment-là, on peut aller vers la saison 4, la paix, accepter de lâcher prise pour évoluer. On peut aussi retomber dans la colère, on peut aussi retomber dans notre bestialité et nos contradictions. De la paix, on peut aller vers le potentiel. De la paix, on peut retomber vers la faim, on peut retomber vers la colère, on peut retomber vers la bestialité. De potentiel, on peut retomber vers la paix, on peut retomber vers la faim, on peut retomber vers la colère, on peut retomber vers la bestialité, nos contradictions. Mais du potentiel individuel, parce que l'expression du potentiel dans la saison 5 est quelque chose de très porté sur nous-mêmes, mais on amorçait déjà la capacité à s'utiliser pour utiliser les autres, et ce n'est pas un gros mot, je pense, parce que mieux utiliser les autres, c'est mieux s'utiliser soi, et c'est censé, en fonction de votre éthique, en fonction de vos valeurs, et bien refléter aussi une dynamique qui vous permette de faire du long terme avec les autres, parce que vous le faites avec vous-même, vous ne pratiquez pas la politique de la très brûlée, en tout cas, ce n'est pas ma façon de fonctionner, et bien vous pouvez aller à ce moment-là vers la conscience collective. Parce qu'on ne réussit pas autant qu'en étant à plusieurs. Sous réserve de certaines bonnes pratiques, ça paraît évident. Mais le bon sens se perd, le bon sens, c'est la simplicité, et la simplicité, ce n'est pas simpliste. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est parfois l'essence même des choses qui devient tellement difficile à saisir par la simplicité justement sous la forme sous laquelle elle peut s'exprimer, qu'elle en est, je dirais, insaisissable, quasiment imperceptible de par son omniprésence. Et c'est justement ça qui fait la distinction entre ceux qui savent écouter, puis faire, et ceux qui pensent savoir écouter et qui font. Parce que l'écart de niveau au début entre deux personnes qui se ressemblent et qui tentent d'écouter se crée avec le temps et devient exponentiel. Donc c'est en fonction des compétences que l'on développe, et notamment la capacité à écouter et à faire avec les autres grâce à l'écoute. Et nous ne sommes pas bien éduqués pour écouter le discours des uns et des autres. Nous ne sommes pas éduqués pour écouter les signaux du monde qui nous entoure, nous ne sommes même pas éduqués pour nous écouter, nous. Quand on peut se dire qu'un mal de gorge de fin de vacances en plein soleil est lié non pas au fait que vous ayez attrapé froid dans une tente ou entre deux courants d'air à la montagne, mais plutôt au fait que vous n'avez pas envie de retourner travailler et que ça vous bloque au niveau de la gorge et que ça vous crée une angine, mais parce que vous êtes physiquement oppressé et que vous n'en parlez pas, eh bien, c'est quand même assez dingue de se dire que le corps peut parler et que nous ne savons pas retranscrire les mots MAUX de notre corps avec les bons mots MOTS de manière orale. Donc, faire de l'information, eh bien, la connaissance qui nous permet de transposer ça en compétences. Comment est-ce que je peux m'exprimer? Je peux exprimer les choses de telle sorte que je mette le doigt dessus, que je puisse appuyer là où ça fait mal ou bien là où ça fait du bien, et que je fasse évoluer la situation. Alors toujours est-il que dans cet épisode, la main de fer dans un gant de velours, et non pas l'inverse, la main de velours dans un gant de fer, non, la main de velours dans un gant de fer, en réalité, vous connaissez probablement l'expression. Je ne sais plus à qui elle est attribuée, je n'ai pas fait mes recherches avant. Je n'avais pas spécialement envie d'ailleurs de vous raconter une histoire qui est sûrement tout à fait incroyable. En réalité, je voulais vous partager une anecdote plutôt liée à une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle... je ne vais pas la nommer parce que je ne lui ai pas posé la question. Et puis elle effectue un travail en lien avec l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, avec le commerce également. Elle a été top manager dans des très grandes sociétés. Et elle a piloté plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de magasins et de boutiques dans un environnement entreprise à consommateurs, donc qu'on appelle B2C, Business to Consumers, qui est le pendant du B2B, le business to business, le commerce inter-entreprise. Là, c'est grosso modo quand vous allez acheter un téléphone chez Orange, par exemple, c'est ce qui s'appelle du B2C. C'est le C, c'est vous, le client, le consumers, et le B, c'est Orange, par exemple. Ça pourrait être SFR, ça pourrait être Bouygues, ça pourrait être Free, si on veut parler d'opérateur mobile. Eh bien, par exemple, c'est une personne qui s'est beaucoup intéressée au leadership, au management, au développement des personnes, au coaching, à l'environnement épanouissant, à l'écoute des signaux faibles du monde, etc., etc. Je ne vais pas pouvoir faire son portrait en quelques minutes, mais il s'avère qu'un jour, c'est l'expression qu'elle m'a sortie. Elle m'a dit « Pierre, vous avez une main de fer dans un gant de velours. » Et elle a raison. Elle a raison, mais ça se voit pas beaucoup. Et petit à petit, ça commence à se voir. Je m'explique. Quand vous êtes petit, quand vous êtes jeune, quand vous étiez jeune, parce qu'on peut récupérer notre état d'esprit d'enfant et s'émerveiller du monde qui nous entoure, et je vous le souhaite sincèrement. Mais quand vous êtes petit, vous êtes très innocent. Moi, j'étais particulièrement innocent. Pas du tout lucide. Très, très enjoué. À la limite de l'idéalisme. D'ailleurs, c'est un des traits de ma personnalité, le fait d'aller vers l'idéal comme ça, c'est un travers, on va dire, de certaines de mes caractéristiques personnelles, qui peut m'emmener vers le fait de croire que, waouh, on peut faire un monde absolument meilleur et incroyable, voilà, sans se casser les dents. Bon, bah, petit à petit, on se rend compte avec les expériences de la vie qu'on peut se faire marcher dessus, qu'on peut se faire arnaquer, qu'on peut perdre de l'argent, qu'on peut perdre du temps, qu'on peut se faire taper, qu'on peut aller à l'hôpital, qu'on peut se faire blesser, qu'on peut se faire casser quelque chose, qu'on peut échouer, qu'on peut échouer encore, qu'on peut échouer une troisième fois, et qu'au bout d'un moment, on se dit « bah oui, mais la confiance avec les autres, comment est-ce que je fais ?» Donc ça, ce sont des exemples. Je ne dis pas que ça m'est arrivé systématiquement, mais ce sont des exemples. Ça pourrait être un cambriolage, ça pourrait être le fait de se faire voler, ça pourrait être plein de choses. Ça peut être lié avec l'amour, ça peut être lié avec l'argent, ça peut être lié avec la confiance, etc., etc. Ça a une incidence sur notre comportement. On crée une carapace. Cette carapace, elle peut être vachement, vachement, vachement épaisse. Elle peut devenir très, très solide, très, très rigide même. Elle peut influencer même à ce point notre comportement que notre programmation intérieure, elle change petit à petit pour faire en sorte que nos pensées, que les sentiments, les actions et les résultats qui en découlent soient totalement étanches, par exemple, au fait de s'ouvrir aux autres. Eh bien, de fil en aiguille, c'est ce qui peut se passer chez un certain nombre de personnes qui font que se réfugient derrière une sorte de carapace comme ça et qu'elles ont du mal à partager leurs sentiments. Elles ont du mal à partager leur amour, elles ont du mal à partager du temps à la pause café, du temps de repas, des anecdotes personnelles, du vécu, des expériences, des mots, passer du temps avec les autres, mais du temps présent, du temps à communiquer. Quoique, la communication, en réalité, est permanente. Que vous disiez quelque chose ou pas, en dit long sur vous. Que vous exprimiez avec des mots certaines de vos pensées ou pas, en dit long aussi sur vous. Enfin, la communication, c'est systématique à partir du moment où vous êtes là ou pas là. C'est ça qui est incroyable et assez drôle quelque part, mais ça, c'est sûrement mon côté idéaliste qui parle, bref. De fil en aiguille, pour ne pas me perdre, vous pouvez renforcer votre dureté, ce qui peut vous amener à vous exprimer dans la vie d'une manière plus ou moins dure par rapport aux autres. Et il y a quelque chose, on dit que tough love makes the job, gets the job done. Pardon pour la faute d'anglais pour les puristes. Tough love gets the job done. Littéralement, ça veut dire l'amour dur fait le job, fait le boulot, fait le travail. Quand quelqu'un est extrêmement exigeant, par exemple, ça peut être un parent avec, sa, avec son enfant, il va lui mener la vie dure pour lui apprendre la vie. Voilà, c'est ça l'expression. Eh bien, à ce moment-là, quand on fait bosser vachement fort un enfant, quand on lui fait comprendre que la vie, ça va pas être rose et que on peut lui mettre des fessées, qu'on le fait bosser jusqu'à pas d'heure, qu'on ne lui offre pas plein de cadeaux, etc. Ça pourrait correspondre. C'est un modèle possible, mais c'est un exemple. Eh bien, ça, c'est une partie des choses qu'elle a voulu exprimer, cette personne, lorsqu'elle m'a dit « Vous avez une main de fer. » Mais c'est pas suffisant, cette expression « Vous avez une main de fer. » C'est insuffisant. Dans un gant de velours, ça veut dire quand, dans la forme, la main de fer, c'est le fond. Dans la forme, c'est doux. Dans la forme, c'est rond. C'est comme un... Je ne sais pas si vous êtes amateur d'alcool ou pas. Faites attention à votre consommation d'alcool, d'ailleurs, et à votre santé. Je peux prendre l'exemple d'un whisky tourbé. Ça peut être un Kilroman, par exemple, ou bien d'un rhum un peu vieilli. Le Ron Centenario, par exemple. 30 ans d'âge. Quelque chose de très rond. Quelque chose qui demande une certaine finesse pour être en mesure de détecter toutes ces nuances. Qui peut un petit peu choquer au départ, mais en fait, quand on le touche, il est doux. Imaginez du velours. C'est la même chose. Vous passez votre main dessus au départ, c'est doux. Et puis vous gardez votre main dessus. Et vous imaginez faire des petits cercles avec vos doigts, avec votre paume de main. Et vous commencez à ressentir d'autres sensations. Au départ, c'était juste de la douceur. Après, ça peut vous chatouiller un peu. Vous sentez chaque petit poil de ce tissu en velours, par exemple, qui vient émoustiller vos mains, qui vient vous chatouiller un petit peu entre les doigts, qui se déforme en fonction de la zone où se trouve votre main. Donc ça n'apporte pas les mêmes sensations d'un bout à l'autre de vos empreintes digitales. Et ça éveille vos sensations par la douceur que ça apporte et par la multiplicité des sens, enfin par la diversité dont ça peut éveiller vos sens. Et c'est quelque chose qui est très agréable. Il n'empêche que ce n'est qu'un revêtement qui peut couvrir quelque chose de beaucoup plus dur, justement pour lui donner cet aspect douceur, etc. Eh bien, ce qu'elle exprimait, cette personne, à ce moment-là, c'était la capacité à avoir un fond dur dans un enrobage de douceur. Alors, c'est pas la pub de Tic Tac où Georges est doux, Georges est frais, mais Georges n'est vraiment pas pratique. C'est un enrobage de douceur qui révèle un cœur de fraîcheur. Voilà, si ma mémoire est bonne, ça doit être à peu près ça. Non. C'est en fonction de comment est-ce que vous vous comportez dans le quotidien, avec vous-même, avec les autres, quel est le fond de votre pensée et quelle est la forme de votre pensée. En l'occurrence, au moment où on s'est rencontrés, c'était il y a un peu plus de 2 ans, je commençais à entreprendre en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire les fameuses personnes qui vont créer des projets dans une société, dans une entreprise, en étant employé de cette société. Et pour que ça fonctionne, c'était j'ai un point A, je vais à un point B et j'y vais. Et quand ça va pas, j'y vais quand même. Quand ça va pas, je le fais bien sentir aux autres. Si quelqu'un me met des bâtons dans les roues, je lui dis. Je fais en sorte d'y aller. On fait en sorte d'impliquer les gens. Et si ça doit impliquer de la contrainte, on va contraindre. Je ne sais pas exactement en fait comment l'exprimer dans la vie de tous les jours, dans le sens où ça fait tellement partie de mon quotidien maintenant que grosso modo, l'image, ce serait que si quelqu'un vous empêche d'atteindre vos objectifs, la chose la plus violente que vous puissiez faire, c'est supprimer cette personne de votre vie. C'est pas de la frapper. J'avais ça en tête au moment de vous en parler, comme si vous mettiez votre bras en arrière avec la paume de main, mais grande ouverte, et que vous ressembliez à ce fermier russe qui a beaucoup fait parler de lui pendant des concours de claques en Russie, et qui en a assommé plus d'un coup de paume de main. Non, c'est pas du tout ça. Non, la chose la plus violente que vous puissiez faire, c'est supprimer les gens de votre vie. Il n'y a même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Délète. Ça, c'est un exemple. J'ai des ambitions. Tu colles pas à ces ambitions, dégage. Et ça me fait rien. Au contraire, même ça me soulage peut-être un peu. Dans la partie 1, bestialité, il y a ce côté animal où on croise les mondes pour faire face à ces contradictions. La comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, c'était ça le point de départ. L'arrivée, c'était la sortie de route par manque de reconnaissance. Et quand on est sensible, quand on est hypersensible, quand on est émotif, quand on est hyper émotif, quand on a la possibilité de faire avec tout ce que la nature nous a apporté, eh bien c'est pas toujours évident de se rendre compte que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus et que ces 5 personnes peuvent être des boulets. Et c'est possible d'être que vous soyez le boulet de quelqu'un d'autre. Je pense que je suis parfois le boulet de quelqu'un. Par définition. Parce que c'est toujours comme ça. On est toujours le bien ou le moins bien par rapport à quelqu'un d'autre. Et encore, c'est une manière très noire et blanche de voir les choses. Parce qu'on est bien souvent les deux. Mais quand on empêche quelqu'un d'évoluer positivement, parce qu'on n'a pas envie de se séparer de cette personne, parce qu'on n'a pas envie de la voir partir, parce qu'on n'a pas envie de plein de choses, parce qu'on a envie de lui dire « Mais non, fais plutôt comme ça. » C'est une projection de soi et de son inconfort par rapport à l'autre. On a envie de garder les gens près de soi, par sécurité, pour se les approprier, un petit peu comme si on se satisfaisait du fait qu'on ne bouge pas son derrière et qu'on disait aux autres « Mais non, t'as pas le droit de me mettre face à mes contradictions. T'as pas le droit de me rappeler à quel point je suis naze. T'as pas le droit de me rappeler à quel point je ne bouge pas, je n'avance pas, je n'évolue pas. Et mon réconfort va être que tu ne bouges pas non plus. » Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité que ça implique? Est-ce que vous mettez ça en pratique? Parce que je pense que je l'ai mis en pratique. Moi maintenant. Mais je pense que je l'ai vraiment beaucoup mis en pratique à une époque, sans m'en rendre compte, à une période où pour le coup, moi j'étais largué. Largué dans la vie, j'avais pas quoi faire. Et j'étais pas bien. Pas bien dans ma peau, pas bien dans ma vie, pas bien dans plein de trucs. Mais pour revenir de ces choses-là, vous vous dites « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et vous commencez à avancer. Et ça n'empêche pas d'apprécier de passer du temps avec les personnes. Mais quand ça ne colle plus à vos objectifs, supprimez. Ça, c'est un moyen radical, très simple, de dire merde aux autres. Attention à ne pas le confondre avec le fait de se dire merde à soi. Parce que supprimer les gens de sa vie quand ce sont les personnes qui nous amènent de l'avant, c'est une erreur d'appréciation, c'est une erreur de jugement, qui fait qu'on peut ne pas se sentir aussi... On peut ne pas accepter de se voir recevoir de l'amour ou du positif. On peut ne pas être mûr, mature pour ça. Si je ne vais pas bien, par exemple, dans ma vie, et qu'il y a des personnes qui me tendent la main à un moment et que je décide de ne pas la saisir en me disant « Toi, tu me fais peur, je ne suis pas prêt à ça. » Et clairement, tu éveilles des choses en moi qui me mettent dans une position inconfortable parce que je ne saurais pas quoi faire avec, je ne suis pas prêt à recevoir ton amour, moi. Eh ben, on les squeeze. On ne les suit pas. On ne prend pas leur main. Tendre la main vers quelqu'un, c'est faire la moitié du chemin. Il faut aussi que cette personne prenne sa main, prenne votre main. Alors, vous pouvez aller la chercher par le col et la traîner pendant un moment jusqu'à ce que cette personne arrive à marcher d'elle-même. Mais il se peut que ça n'arrive pas. Et quand bien même vous traîniez cette personne par le col, si c'est vos enfants, vous avez tout à fait le droit. C'est votre droit le plus légitime, probablement. Mais si c'est quelqu'un d'autre, maintenant, qui ne fait pas partie vraiment de votre vie, mais que vous appréciez quand même, donc qui fait un petit peu partie de votre vie, c'est extrêmement égoïste. Pourquoi voudriez-vous qu'elle se bouge les fesses si c'est elle qui est en train de vouloir vous entraîner vers le fond? Il y a deux personnes qui tirent dans deux directions opposées, et c'est un petit peu ce jeu de la corde, à savoir qui passera la ligne en premier. Vous méritez mieux. Vous méritez beaucoup mieux. Et de votre part, et de la part de l'autre. Donc de la part du groupe. Vous méritez mieux de votre part, paf, saison 1 à saison 5. Vous méritez mieux de la part de l'autre, saison 5 à saison 6. Et vous méritez mieux de la part du groupe, saison 6. Mais encore une fois, et selon le parti pris de les doigts dans le miel, et c'est mon opinion, ça doit venir de vous. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez autant l'image de l'extérieur qui arrive à votre cerveau, qui est décortiquée par lui, qui vous permet de retranscrire une forme, votre réalité, je veux dire une forme de réalité, mais c'est votre réalité, c'est la perception de la réalité. Et vous avez vos pensées, votre imagination. Cette imagination guide à l'action. Repensez au modèle PSAR. Programmation, pensée, sentiment, action, résultat. Et on recommence. Et les résultats amènent souvent à la motivation ou à la démotivation. Le fait d'avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est tout un art. Parce que le gant de velours, il n'est pas là pour faire joli. Il n'est même pas là pour être enrobant. C'est une manière d'être. C'est quand même au même titre que cette description du velours qui est d'ailleurs assez... que j'ai eu du mal à faire parce que j'imaginais juste simplement le velours, toucher du velours entre mes doigts et les sensations, mais c'était pas évident de décrire, de vous le partager comme ça à l'oral. Donc peut-être qu'il faut que je développe mon vocabulaire lié au tissu et puis au toucher. Toujours est-il que c'est très subtil. C'est fin. C'est une attitude. Et c'est quelque chose qui se travaille, qui s'éduque. Ça ne veut pas dire que vous êtes juste bon à caresser. Non, ça veut dire que si on vous parle, on se fait pas mal. Ça peut signifier beaucoup, beaucoup de choses. De l'empathie, de la compassion, de la sympathie, plein de trucs. Plein de postures. De la réflexion, de la compréhension, de l'analyse, de la communication. Mais le fond, il est là pour ne pas dévier d'une trajectoire que vous vous êtes donnée. Une mission. Que vous ayez des mots dessus ou pas, à votre manière, vous êtes dur aussi. Mais tout est relatif. Et j'ai une pensée pour deux personnes très connues dans le milieu du business. Le premier, c'est Jack Welch, que je vous invite à découvrir sur Internet, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué au développement de son entreprise, qui était quelqu'un de réputé pour être extrêmement brillant, très agréable, sympathique, extrêmement dur. Et il est réputé également comme étant l'un des meilleurs PDG de notre ère. Il est décédé aujourd'hui, mais ses biographies sont accessibles sur Internet ou dans des bouquins. Et le deuxième, c'est Dan Peña, que je vous invite à écouter parce que ça va vous faire violence, ça va vous secouer les puces et vous aurez peut-être même l'impression que c'est tellement déphasé avec vous que ça en est digne d'un cirque. Pourtant, je vous invite à regarder les vidéos de Dan Peña, D-A-N-P-E-N-A, pour comprendre ce que ça veut dire une main de fer dans un gant de velours. De manière, bien sûr, extrême. Et c'est aussi parce que ce sont les positions extrêmes qui sont réfléchies et assumées qui font changer les choses. Et ensuite, en fonction de l'éthique de la personne, qui les font évoluer vers ce qu'on appelle le bien ou le moins bien, le mal. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous dur? Pas difficile. Dur. Avez-vous une main de fer? Et parallèlement à ça, êtes-vous doux? Ou êtes-vous douce? Avez-vous, portez-vous un gant de velours? Ça m'intéresserait énormément. Ça m'intéresserait énormément parce que, pour ma part, je travaille, je m'emploie à développer ces deux aspects. Je pense que le gant de velours, j'ai trouvé un équilibre. Je pense que la main de fer, je suis en train de le développer et que ça gagne en puissance en ce moment. Je pense que mes actions du quotidien me permettent de répondre à la problématique posée dans l'épisode 293 liée à la peur dans ma tête, pour rappeler que nos peurs sont fictives et qu'elles n'existent pas ailleurs que dans notre tête. Et que cette main de fer permet de dire merde à la peur. Voilà, pour exprimer les mots comme je le pense. Les actions qui découlent de mes activités en ce moment sont partagées entre un avant qui n'assume pas d'être dur, qui n'assume pas d'être avec les autres, qui n'assume pas d'être exigeant avec les autres, autre qu'à soi-même, vers je suis autant exigeant avec les autres qu'avec moi-même, pour élever le niveau, mon niveau, et le niveau des personnes qui m'entourent. Et pour ça, eh bien encore une fois, on n'y arrive pas tout seul. Vous pouvez vous élever et être la self-made woman ou le self-made man de l'année, que vous ne devrez ça d'abord qu'à vous, et que vous ne pourriez y arriver sans les autres. Et que pour le coup, on peut se servir de mentor, d'exemple, de modèle. On peut agir en fan. On peut être endoctriné de manière à partager notre propre doctrine. Mais cela est une autre histoire. Je vous invite à partager vos réflexions sur le sujet, en me demandant bien ce qui peut vous conduire ou pas à être des personnes dures, à avoir cette fameuse main de fer sur le fond, et ce qui peut vous conduire à l'exprimer d'une manière peut-être plus enrobée, plus douce, plus subtile ou pas, avec le gant de velours, en fonction de vos expériences. C'est Pierre, les doigts dans le miel, c'était l'épisode 299, du podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.